Voilà, mesdames, messieurs, d'abord j'aimerais vous dire le très très grand plaisir que j'ai d'être ici ce matin. Et j'aimerais en tout premier lieu, si vous me le permettez, exprimer mes remerciements d'abord à chacune et chacun en fonction de sa présence, mais également aux participants, participantes, qui ont investi beaucoup à l'occasion de ce rendez-vous, de cette conférence. Et puis des organisateurs, mais vous allez comprendre que ce n'est pas de l'auto-publicité quand je parle des organisateurs. J'aimerais évidemment faire référence à toutes celles et ceux qui, du groupe qui encadre finalement nos discussions jusqu'aux directions d'enseignement, ont fortement, non seulement initié un tel projet, mais en ont permis la réalisation. Et puis un mot tout particulier, si vous me le permettez également, pour Patrick Hess. Patrick Hess, qui est donc le grand organisateur au sens de la cheville ouvrière de ce rendez-vous. J'aimerais dire qu'il a consacré énormément de temps et que bien qu'à la retraite, il a poursuivi ce projet jusqu'au bout, démontrant s'il était besoin la très grande disponibilité et le très grand engagement des fonctionnaires de notre État. J'aimerais vous dire également mon émotion à participer à ce troisième débat. C'est vrai que le tout premier, c'était le 10 avril 2003. Je crois qu'il faisait à peine 20 jours que je tentais d'occuper de mes fonctions. Et que, bien évidemment, nous retrouver aujourd'hui avec un monde qui est quand même largement à mettre en exergue, c'est tout simplement remarquer que la thématique a conservé non seulement toute son actualité, mais très probablement se trouve aujourd'hui encore renforcée. Encore renforcée parce que la question des changements auxquels nous assistons, des changements que nous vivons, attire bien évidemment l'ensemble des attentions, particulièrement de celles et ceux qui ont la charge de les expliquer. Et l'enseignement, les enseignants, sont aux premières loges pour expliquer tout un certain nombre de phénomènes, y compris pour un certain nombre qui n'étaient pas forcément prévus quelques mois auparavant, quelquefois quelques jours auparavant. C'est donc l'émergence, ou plutôt l'arrivée du court terme, pratiquement dans le système scolaire et dans l'organisation sociale. Permettez-moi de dire donc que nous vivons aujourd'hui de façon très succincte, l'époque de la mondialisation, l'époque de l'immigration, tous azimuts, et l'époque de l'urbanisation. Trois phénomènes qui font pression très largement sur le cadre de nos sociétés. C'est d'autant plus que cette modification du cadre s'accompagne de la montée des inégalités. Et la montée des inégalités n'est pas le moindre des éléments, le moindre des dangers qui menacent nos sociétés et qui posent très directement la question du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et puis j'aimerais bien évidemment insister sur la question notamment du vivre ensemble pour dire que lorsqu'on vit aujourd'hui, c'est notre cas, dans un système scolaire avec 42% d'élèves migrants, il est important de constater que nous ne pouvons pas développer une politique qui est celle de l'assimilation. Pour celles et ceux qui seraient tentés par cette voie, elle est tout simplement impossible. Personnellement, je ne le suis pas. Et que le communautarisme, c'est-à-dire le renvoi aux appartenances strictes, ne peut pas constituer le modèle. Mais l'intégration n'est pas un élément ou un contrat à sens unique. Il doit faire en sorte que celles et ceux qui sont venus ici avec leur patrimoine culturel, non seulement y trouvent leur place, mais également un respect pour leur identité et également permettent à celles et ceux qui étaient finalement à peine arrivés avant eux d'en profiter également. C'est donc une société qui se construit et ce n'est pas une société rigide qui se doit uniquement de demander aux nouveaux arrivants de bien vouloir appliquer les règles en vigueur. Autrement, la réforme n'aurait jamais vécu à Genève si on avait agi de la sorte. Il est donc important de pouvoir faire en sorte que nous puissions bénéficier de ces richesses qu'offre très directement ce cadre, à condition de pouvoir s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est forcément au-delà des différences nationales, culturelles, d'évoquer également les questions des religions. Et j'aimerais le poser comme un élément politique, comme un défi, qui, en fonction de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, fait placer aujourd'hui l'élément de la laïcité comme un élément devant être redéfini. Je dis bien redéfini dans la mesure où on ne peut pas se contenter de dire laïcité, 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 sans plus savoir ce que l'on veut dire par ce terme. Et on l'a vu, le terme est régulièrement investi de charges très différentes et peut être l'objet de controverses en fonction de la manière dont on entend résumer ou plutôt éclairer le terme laïcité. La position française de la laïcité n'est pas celle probablement que connaissent les systèmes du nord de l'Europe. Il y a, en fonction de cela, à prendre en compte ce que nous sommes très directement à Genève en fonction de cette laïcité. Oui, nous avons pratiquement plus d'un siècle de séparation de l'Église et de l'État en fonction de la loi de 1907, mais nous nous trouvons également dans tout un certain nombre, on va dire, d'ambiguïtés qui montrent que la question de la laïcité chez nous est régulièrement question d'interprétation. Et s'il y a un élément fondateur sur lequel j'entends insister, c'est celui qui fait la différence très profonde entre ce que l'on attend des élèves, ce qu'on leur offre, et ce que l'on attend des enseignants et ce qu'on leur offre. Il ne peut pas y avoir de distinction. Ainsi doit-on être aujourd'hui particulièrement attentif à l'article 6 de la loi sur l'instruction publique, qui met bien en avant, le fait que nous devons respecter non seulement les opinions politiques, mais les croyances, non seulement des élèves, mais également de leurs familles. C'est dire que si la place est présente pour la diversité, il n'appartient pas aux enseignants de dire ce qu'ils pensent politiquement ou ce qu'ils croient ou en qui ils croient religieusement. C'est un élément qui appartient très directement aux familles et aux enfants, qui doit respecter la sphère privée, mais qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en discuter dans un cadre qui est un cadre scolaire, mais également un cadre culturel indispensable pour appréhender le phénomène. C'est dire que nous sommes en mutation, et s'il y a un grand texte, si j'ose le qualifier ainsi, qui ne nous éclaire pas beaucoup aujourd'hui, bien que nouveau, c'est notre nouvelle constitution, qui bien évidemment évoque la question de la laïcité, mais laisse sagement au Parlement le choix probablement de pouvoir y revenir pour mieux lui donner la substance nécessaire. Donc il y a un élément, j'allais dire, d'ambiguïté qui va perdurer et qui va laisser, comme dans bien des débats, un rôle et une responsabilité centrale au système scolaire. Et c'est bien à ce type de phénomène que nous faisons face aujourd'hui, et ce type d'attente. Il s'est passé bien des choses, vous avez l'occasion de les relever. D'abord, permettez-moi d'évoquer très rapidement notre système politique. 1996, la motion. Directement, monsieur le professeur Borgeau nous a rappelé le rythme avec lequel nous avons travaillé. Je dis « on » parce que « on » est un pronom indéfini. Depuis 1996, eh bien, nous avons travaillé un peu, puisque notamment, je crois que la réponse formelle à la motion a été rendue au Parlement, je crois, en 2006. 10 ans, alors que la loi portant règlement du Grand Conseil, je parle sous, évidemment, la haute surveillance de certains députés que je salue au passage et qui sont dans la salle, laisse au Conseil d'État 6 mois pour y répondre. Mais très régulièrement, vous savez, mesdames et messieurs, les motions sont des textes auxquels le Conseil d'État peut essayer, je vais dire de façon non pas irrespectueuse, mais avec une certaine liberté, finalement de s'en défaire le plus rapidement possible en répondant rapidement. Or, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Si les choses ont tardé, si quelque part le calendrier politique a été oublié, si la date, l'échéance ont été oubliées, c'est tout simplement parce que le contenu a été littéralement investi. Il a été littéralement investi d'énergie, de volonté. J'en veux pour preuve, effectivement, le rapport du service de recherche en éducation de Valo-Hautemachère de 1999, qui marque un élément très important de la réflexion qui nous a permis la première conférence débat de 2003. Puis j'aimerais dire effectivement que les choses ensuite ont changé. La formation continue s'est trouvée redimensionnée, reconfigurée avec une ambition qui était celle de la laïcité engagée. Le deuxième débat qui est intervenu en 2009. En 2010, nous avons la création du groupe d'accompagnement. Et encore une fois, je remercie l'ensemble de ses membres d'avoir investi très sérieusement cette mission. Et puis en 2011, l'introduction des grands textes. Et nous voici aujourd'hui en 2013 par rapport effectivement à cette troisième conférence. Nous avons compté effectivement sur un point fondamental. On ne change pas une société par décret, pas plus qu'on ne la change par directive ou par motion. On la change par volonté politique, par capacité démocratique, par organisation des débats et capacité effectivement de la société de pouvoir saisir de la très profonde substance qui est en discussion. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui pour une troisième conférence de ce type, c'est qu'il y a non seulement une attente profonde, mais que nous sommes en train d'évoluer dans le sens d'un changement de culture et non pas dans un brusque changement qui tout à coup modifie complètement les paramètres et donne d'autres missions aux enseignants. Troisième point de mon propos, pour mettre en évidence que j'ai bien conscience de tout ce qu'il peut y avoir d'insatisfaisant. À la fois sur le manque de lisibilité ici, le manque de lisibilité là, ou encore dans le domaine de la formation des enseignants, ou encore de la conjugaison entre les projets qui visent l'éducation citoyenne et la transmission des grands textes ou la transmission des faits religieux. Mais je remarque qu'il y a, malgré l'ensemble de ces critiques, un investissement pour que les choses avancent, changent, et ceci dans un contexte qui est celui du dialogue. Par rapport à la question du dialogue, j'aimerais que celui-ci non seulement continue, mais puisse avoir lieu également dans la durée, et puisse reprendre probablement quelques points d'évolution pour la suite. S'il y a aujourd'hui une reconnaissance notamment des grands textes, qui ne sont pas essentiellement religieux, puisqu'il y a des textes qui sont laïques, on peut les qualifier ainsi, eh bien, il y a une attente autour du corps enseignant qui implique des clarifications. À savoir le fait que, et j'ai eu l'occasion d'y répondre très récemment, en tant que tel, l'enseignement de ces textes doit perdurer et ne pas être simplement disséminés dans les différents cours de sciences humaines existants. C'est une question fondamentale pour la continuation de l'avancée des préoccupations et donc qui nous permettra probablement d'atteindre l'objectif. Je suis reconnaissant au corps enseignant d'avoir non seulement investi, mais de s'être saisi de la matière, même si cela est difficile et cela ressort très bien de l'enquête de Mme Gonzalez, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce travail, on pourra l'effectuer qu'à partir du moment où on garde cette lisibilité de l'enseignement des grands textes. C'est probablement des éléments qui manquent un peu pour l'enseignement primaire et l'enseignement post-obligatoire, d'avoir des outils, des points de chute, d'identification par rapport à la transmission des faits religieux. Et très probablement qu'à défaut de directives, nous devrions être capables de développer ou de proposer dans les prochains mois des recommandations au corps enseignant qui soient des recommandations qui accompagnent le système de formation continue, qui reste privilégié là où il n'y a pas de support et de moyens didactiques d'enseignement directement liés donc à cette priorité. Et je pense que c'est l'ordre naturel des choses qui nous met en avant aujourd'hui les disparités entre formation de base et formation continue, la formation continue étant beaucoup plus liée encore à la question, c'est vrai, du volontariat, mais également à cette volonté de faire avancer les choses, mais sans pouvoir recourir à un certain nombre de moyens d'enseignement stabilisés. Donc je pense qu'il est nécessaire de donner en ce sens une clarté supplémentaire. Je terminerai mon propos, parce que peut-être, je ne sais pas, il y aurait des questions, puis mon but n'était pas de vous assommer par encore 1000 paroles sur ce que nous avons pu échanger ce matin, en disant que, du point de vue politique, je mets encore une fois en évidence le fait que nous ne modifierons pas les choses par décret, mais bien en investissant le champ démocratique. Et pour cela, il me semble important de rappeler quelques points. Le premier point, c'est ce qui, très exactement, pèse sur le système scolaire. Le système scolaire ne peut répondre, je le répète régulièrement, à toutes les contradictions de notre monde contemporain. Plus nous nous enfermons dans la confusion, plus on attend de clarté de l'école. Et il y a une forme de schizophrénie sociale autour, et tout en redisant l'importance de cet engagement dans les directions que nous venons d'évoquer sur la quête du sens, il convient de remarquer que la tâche du système scolaire n'est pas aisée à partir du moment où nous sombrons dans la confusion. Et j'aimerais qu'on ait non seulement patience, mais surtout reconnaissance vis-à-vis du corps enseignant qui a le courage, malgré tout, de saisir cette matière à partir d'une volonté politique large et consensuelle qui s'est intégrée à l'occasion de l'introduction du plan d'études roman. Ceci est absolument essentiel. Hannah Arendt, la philosophe, évoquait dans son texte « Réflexion sur Little Rock » le fait qu'elle trouvait pour le moins étrange qu'on déclenche la mixité entre blanc et noir dans le système scolaire à partir du moment où l'État interdisait encore les mariages entre noir et blanc. J'aimerais tout simplement relever encore une fois ici l'importance qu'il y a à considérer que le système scolaire est une base essentielle de la République, mais ne peut constituer une garantie contre toutes ces dérives. Alors j'aimerais dire que dans les grandes tâches du système scolaire, bien entendu, il y a tout, puisqu'au Parlement, on discute de la place des travaux manuels, du fait religieux, de l'enseignement de la musique, de l'éducation physique, des langues, des mathématiques, de la biologie en particulier, de la physique, de la chimie, bien entendu du latin, sans oublier le Schweizerdeutsch, c'est-à-dire de l'ensemble des priorités auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Mais s'il y a une mission à laquelle nous devons impérativement répondre, hormis celle qui relève d'une solidarité entre des générations, entre une génération qui est celle des élèves, c'est celle qui nous permet également de communiquer d'une génération à l'autre, c'est-à-dire se situer dans la verticalité et qui permet très exactement à des grands-parents de comprendre leurs petits-enfants et aujourd'hui, en fonction de l'allongement de l'espérance de vie, leurs arrière-petits-enfants. Et à ceux-ci de comprendre également leurs propres grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Et c'est très exactement une des menaces à laquelle nous tentons de répondre avec ce qui représente aujourd'hui un changement de culture en acceptant de parler des faits religieux dans notre système scolaire. Mon dernier mot pour remercier le professeur Borgeau et l'ensemble donc, des directions, des trois directions qui ont beaucoup investi la matière, évidemment, Madame Nicolazzi, en particulier par rapport au travail d'accompagnement sur les grands textes, avec évidemment le rôle de Monsieur Borgeau. Et s'il y a un compliment, c'est qu'il y a également un reproche qui y est tout de suite attaché, et il ne vise pas la polémique sur la place donc du Nouveau Testament dans les grands textes, mais tout simplement l'absence d'un roman que j'aurais aimé y trouver, c'est celui de Milan Kundera, La lenteur, qui nous aurait permis de mesurer à quel point la question de la mémoire dans la société du court terme est essentielle pour quelque part y préserver la place de l'avenir. Merci beaucoup de votre attention.
Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Merci encore à tous les orateurs. Pendant que vous partez, je réponds juste à deux questions. Je réponds à une question factuelle qui était : est-ce que les conférences seront publiées ? Alors, vous trouverez les enregistrements sur le site du DIP. Et puis, d'autre part, il y a ici toute une pile de programmes de ce qui a été fait en termes de formation continue des professeurs dans le cadre de l'instruction publique. Je vous remercie à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.